6h45, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier. Vous savez, quand bien même vous gagnez un pénalty, vous ne gagnez pas forcément le match à la fin. Vérité éternelle et échange de métaphores footballistiques entre le pouvoir et l'un des principaux candidats après l'élection présidentielle au Cameroun. Pas de résultat officiel, mais des accusations de fraude et l'un des principaux adversaires de Paul Biya qui se déclare déjà vainqueur. Bonjour Hans de Marion Gop.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone avec nous depuis Yaoundé. Vous êtes chercheur à l'International Crisis Group, co-auteur du rapport sur ces fractures camerounaises, hein, publié le 3 octobre. Alors Paul Biya, c'est 36 ans au pouvoir, deuxième plus grande longévité en Afrique, apparente continuité, mais rattrapée par une réalité incertaine, des charbons ardents même. D'abord l'exaspération sociale due au marasme économique, la crise institutionnelle avec un décalage de représentativité croissant. La crise politique grave ensuite, ce fond de conflit avec la guérilla anglophone depuis un an dans le sud-ouest, sans compter Boko Haram toujours présent et meurtrier dans le nord, plus de 500 000 déplacés en tout sur 25 millions d'habitants, dans un pays limitrophe de la Centrafrique, un peu le ventre mou du dispositif sécuritaire régional. Bref, toutes les caractéristiques d'une élection à risque, disiez-vous dans ce rapport. Alors, 7 ans après une élection tendue, c'est une nouvelle crise électorale avec donc la proclamation de victoire d'un des principaux challengers, Maurice Kamto, qui appelle le président, je cite, à une transition pacifique, un vrai tir de barrage face au parti au pouvoir qui préemptait aussi la réélection. L'instabilité jusqu'ici contrôlée, Hans de Marion Gop, pourrait-elle devenir incontrôlable? Et d'abord, quelles données fiables est-ce qu'on peut avoir sur cette élection dont vous écriviez qu'on ne connaît même pas, enfin le corps électoral n'est même pas contrôlé puisque ce sont 12 millions de personnes en âge de voter, mais seulement 6,5 millions d'électeurs.
Voilà, pour l'instant, il est difficile d'avoir des données fiables sur l'issue de ce scrutin. Pour autant, certains éléments sont déjà probants. D'une part, il apparaît que le taux de participation est plutôt moyen. Il pourrait tourner autour de 50% ou 55% selon les estimations, sur la base du dépouillement des procès-verbaux qui ont déjà pu être dépouillés et qui, grâce aux réseaux sociaux, ont été diffusés sur la toile. Ensuite, il apparaît aussi que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les régions donc anglophones, le taux de participation a été de plus bas, probablement en dessous de 5%, et la journée électorale a été marquée par de très nombreux incidents violents et des morts, en particulier à Bamenda, le chef-lieu de la région du nord-ouest. Quant à la question de l'instabilité, c'est une question qui, nous, à l'International Crisis Group, nous inquiète particulièrement, d'autant plus qu'au sorti du scrutin, le principal opposant au président Biya s'est déclaré vainqueur. Difficile de savoir ce qu'il en est en réalité, puisque nous n'avons pas la totalité des procès-verbaux sous nos yeux, mais au moins, l'impression qui est donnée est que pour une fois, depuis 1992, le président Biya semble très concurrencé par ses principaux opposants, à savoir Maurice Kamto et Cabral Libi, et que quoi qu'il en soit, il sera difficile pour ce dernier de faire un score soviétique comme cela a toujours été le cas lors des élections précédentes.
Et alors ?
Et donc, peut-être s'il tentait un passage en force dans ce sens-là, il y aurait des mobilisations populaires.
Et justement, score soviétique, c'était 78% pour Paul Biya au dernier scrutin en 2011. Donc, à voir, à suivre cette participation, notamment dans les régions anglophones du nord-ouest, sud-ouest. Concernant les soupçons de fraude, enfin, il n'y avait même pas des soupçons, il y a eu des accusations quand même de certains des principaux partis, principaux candidats, notamment le porte-parole du MRC, qui disait des fraudes à une échelle que vous n'imaginez pas, qui disait que l'écart ne peut être rattrapé par le président Paul Biya. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Sur quoi se fonde-t-il?
Il ne fait aucun doute que l'élection a été marquée par un ensemble de fraudes. J'ignore, il est difficile de se prononcer sur la magnitude de ces fraudes, l'ampleur de ces fraudes, mais il est clair qu'il y a des irrégularités. Dans certains bureaux de vote, des représentants de partis de l'opposition, contrairement à la loi, ont été empêchés d'avoir accès. Dans d'autres, des bulletins représentant certains candidats de l'opposition sont venus en manquer pendant des heures. Il y a eu des cas de bourrage dans certains bureaux de vote. Il y a plusieurs cas de ce type-là. Quelle en est l'ampleur? Il est difficile d'avoir une idée très précise. Mais la réalité est qu'au Cameroun, la fraude électorale, la fraude préélectorale, donc avant l'élection, est encore même plus importante que la fraude le jour des élections ou les arrangements de résultats qui peuvent avoir lieu après l'élection. Car le code électoral, sur bien des dispositions, est conçu de façon structurelle à avantager le candidat président.
Un code électoral qui a été modifié d'ailleurs plusieurs fois, notamment en début d'année. Là, alors je crois que les candidats ont 72 heures pour présenter leur requête. Il y a quand même deux autres partis qui ont parlé de fraude. Juste sur la situation sécuritaire et puis électorale dans le Sud-Ouest, justement, les séparatistes d'Ambazoni donc avaient promis de perturber le scrutin. Le fait qu'il y ait une si faible participation dans le Sud-Ouest, ça veut dire qu'ils ont réussi ou il y a une démotivation des électeurs?
En réalité, c'est une combinaison des deux facteurs. Comme j'aime à le dire, même sans la menace des séparatistes, il y a une partie des populations du sud-ouest et du nord-ouest, des populations anglophones donc, qui est déjà en rupture psychologique par rapport à l'état du Cameroun et qui s'est décidé à croire que l'élection présidentielle ne les concerne pas puisqu'ils sont déjà un État indépendant ou dit indépendant. Et donc, lorsque vous ajoutez à cela le fait que la minorité qui aurait pu souhaiter voter était sous menace et intimidation des milices armées séparatistes, cela explique ce faible taux. D'autant plus qu'il y a eu de nombreux échanges de tirs à Bamenda, à Boya, le jour du scrutin, et dans de nombreuses autres localités qui ont dissuadé même les plus téméraires qui auraient voulu s'aventurer vers les bureaux de vote.
Et des échanges de tirs, trois séparatistes tués à Bamenda également, un tribunal d'incendie à Kumba dans le sud-ouest toujours. Sur ces déclarations donc de Maurice Kamto, un des principaux opposants, qui est un ancien ministre également, il disait donc « j'ai reçu pour mission de tirer le pénalty historique, je l'ai tiré, le but a été marqué ». Mais le fait qu'il appelle Paul Biya à une transition, ça a été qualifié d'insolence par le pouvoir. Est-ce que de ce point de vue-là, c'est pas une déclaration de guerre ou du moins un pas irrémédiable qui est franchi?
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un pas irrémédiable, tout comme j'ai l'impression qu'il y a une surréaction de la part du gouvernement camerounais qui, ces dernières années et ces derniers mois, est encore plus sur la défensive qu'à l'habituel. En aucun cas, je ne vois là une déclaration qui violerait la loi sur le code électoral au Cameroun, tout comme je n'y vois pas une déclaration de guerre. Cela dit, cela ne signifie pas qu'il aurait gagné les élections, car non seulement nous n'avons pas tous les procès-verbaux, mais quand bien même il apparaît sur la base des premiers dépouillements qu'il aurait pu gagner dans certaines régions comme la région de l'Ouest ou celle du littoral ou encore peut-être à Yaoundé, d'autres régions plus favorables comme le Grand Nord, à savoir le Nord, l'Adamawa et l'extrême Nord, le Sud, ont voté en large partie pour le président Biya. Donc, il est difficile pour aujourd'hui de savoir ce qu'il en est des résultats exacts du scrutin. Et chaque candidat est libre de donner sa version sur la base de ce qu'il a comme ses procès-verbaux, sans que cela n'entraîne une réaction hystérique sous fond de division tribale de la part du gouvernement camerounais.
Bon, et toute dernière chose, vous notez notamment dans votre rapport auquel on renverra un grand renouvellement, enfin un certain frémissement dans la scène politique camerounaise et la société civile. Si on parle des risques de violence post-électorale, il y a quand même deux forces, aussi bien religieuses, les évêques d'Ambazoni qui appellent à des cessez-le-feu, une conférence générale anglophone, un mouvement de chassement Paul Biya must go. Est-ce qu'il y a un réel risque de violence ou au contraire, c'est des forces de nature à atténuer ces risques?
Si vous voulez, aux côtés de l'opposition traditionnelle, les anglo-saxons diraient l'opposition mainstream camerounaise, aujourd'hui, il y a tout un courant qui se développe au sein de la société civile et qui aspire, qui parvient aussi à aspirer, c'est un petit parti de l'opposition. Ce courant, c'est celui du chassement constitué d'intellectuels, de personnalités de la diaspora, et qui pense que faire partie le président Biya par la voie des urnes n'est pas possible compte tenu de l'architecture institutionnelle et du pôle électoral camerounais qui est structurellement à son avantage et qui planifie une forme de mobilisation populaire ou d'insurrection populaire sous le modèle des révolutions du printemps arabe pour faire partie de ce dernier. Donc difficile de savoir si Maurice Kamto, le candidat déclaré vainqueur, pourrait se rapprocher de ce dernier. Toujours est-il que le courant du chassement en général ne s'inscrit pas dans une logique de stabilisation à court terme du Cameroun, mais au contraire, de mobiliser les populations et de déclencher une insurrection populaire.
Et merci, on renverra donc à votre rapport. Merci beaucoup Hans de Marie, Ongoup, chercheur à l'International Crisis Group.